Ô Dieu Père, nous nous plaçons maintenant dans le ciel. Là où le Seigneur règne, assis à ta droite, couronné de gloire et d'honneur. Lui, l'homme de douleur, lui qui n'a pas regardé comme un objet à ravir être égal à Dieu, mais qui s'est anéanti lui-même, et qui est venu comme un homme et qui est mort sur la croix. Et parce que cette obéissance était là, parce qu'il t'a glorifié parfaitement dans sa vie comme dans sa mort. Ô notre Dieu, tu l'as glorifié. Tu lui as donné ce nom au-dessus de tout nom. Tu lui as donné cette position devant qui tous les genoux se ploient. Sur la terre et dans le ciel. Ô Dieu Père, merci de ce que pendant toute cette journée, tu l'as élevé à nos âmes. Tu l'as élevé dans notre cœur. Tu nous as sensibilisés. À ce Sauveur qui n'a pas cessé d'être médiateur pour nous. Ô Dieu Père, ton amour est infini. Qui de nous ferait un travail comme cela? Mais lui, ton Fils, aujourd'hui, continue d'appeler et de compléter son épouse. Continue de la purifier, de la sanctifier, de la chérir, jour après jour, afin qu'elle paraisse devant lui, sans défaut. Ô Dieu Père, des vérités immenses, difficile à exprimer, difficile même à concevoir, mais néanmoins réel, parce que lui, il est venu ici-bas révéler cet amour que tu as dans ton cœur pour tous les hommes. Et que c'est ta bonté, ô Dieu et Père, qui nous a sensibilisés à te faire confiance et à placer notre foi dans son sacrifice, maintenant et pour toujours. Ô Dieu et Père, nous te bénissons parce que tu nous as mis au bénéfice de cette œuvre accomplie et de ce qu'il n'y a plus rien que nous pouvons ajouter à nous-mêmes et à notre avenir. Que tout a été fait et accompli par le Seigneur Jésus. Oh, nous te remercions de cela. Et que nous te demandons pour que tu augmentes notre confiance par le ministère de ta parole et du Saint-Esprit. Que tu augmentes notre perception de ces choses et leur influence sur notre vie. Afin que nous vivions non pas pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui a été ressuscité. Ô Dieu Père, veuille venir ta parole ce soir. Ouvre mes oreilles, ouvre mon cœur, pour que j'entende ta voix qui me parle. Que nous entendions ensemble ta voix qui nous parle. Nous te demandons ces grâces dans ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Comme préambule, je voudrais lire un verset dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12. Et nous allons lire au verset 25 deux versets. Celui qui aime sa vie la perd. Et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ce n'est qu'une écriture parmi beaucoup que nous allons lire ce soir. Mais c'est une écriture, c'est une parole qui est assez conclusive dans l'évangile de Jean. Car c'est le dernier discours que le Seigneur a fait en public avant d'aller laver les pieds de ses disciples. Donc, c'est un moment assez solennel. C'est la conclusion d'un ministère de 3 ans. Et c'est là une promesse que le Seigneur Jésus fait. Et il l'adresse non pas à ses disciples, mais il l'adresse à tout le monde. Et il dit ceci, qui est tellement touchant. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Dans ce monde, le monde en général aime la vie. En fait, ils veulent vivre autant que possible, aussi fort que possible. Et ils bourrent leurs horaires de choses et dépensent beaucoup pour meubler leur vie de toutes sortes d'expériences et toutes sortes de choses. Et nous savons que ces choses-là, elles ne sont pas des choses qui durent, ou disons qui satisfont, mais ce sont des choses qui doivent être renouvelées constamment pour qu'elles gardent leur saveur. Ou même peut-être qu'il faut souvent les remplacer par d'autres qui sont plus fortes sur le plan de l'expérience. Et ce qu'on voit très souvent dans le monde, c'est que il y a un nombre d'expériences qui sont faites et après, quand on peut plus les faire, il y a une dépression qui s'installe. Et il y a une perte de direction, un sens de déjà-vu, un sens d'inutilité à l'existence. Et alors, Jésus, il nous dit ceci, si quelqu'un est sa vie, et le mot est très fort, avoir de la haine pour sa vie, c'est quoi avoir de la haine pour sa vie? C'est pas de ne pas aimer sa vie, mais c'est en comparaison avec la vie éternelle, n'est-ce pas? C'est toujours on ne peut pas avoir de la haine sans avoir de l'amour. Donc il faut y aller deux. Donc on a de la haine si on a de l'amour, on a de l'amour si on a de la haine. Les deux choses vont ensemble. Et alors, si j'ai de la haine pour ma vie, elle est donc remplacée par quelque chose de supérieur. Voilà. Qui est tellement fort et tellement submergent que je ne peux pas aimer autre chose plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui me saisit complètement. Et c'est de ça que Jésus parle. Ce n'est pas de haïr sa vie parce qu'on a des circonstances difficiles. Non, c'est au-delà de ça. C'est de dire, je hais ma vie parce que la vie en Christ est infiniment plus merveilleuse et plus belle que tout ce que je pourrais faire avec tout l'argent du monde. Et c'est ça que le Seigneur Jésus dit à la fin de sa vie. Et il y a encore une promesse qui est merveilleuse qui dit ceci: si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Il y a beaucoup de personnes qui veulent servir Dieu, mais le chemin, c'est le Seigneur Jésus. Il dit bien: je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et c'est une réalité qui est présente aujourd'hui, comme elle est éternelle, n'est-ce pas? C'est une réalité qui va nous suivre jusque dans le ciel même. Pourquoi? Parce que, en servant le Seigneur, non pas parce que nous voulons servir, mais parce qu'il nous appelle à le servir. Maintenant vous me dites, est-ce que le Seigneur appelle tous ceux qui veulent le servir? Réponse: oui. Mais il les forme, mais il appelle tout le monde qui veut le servir. Eh bien, ce serviteur-là, il a cette promesse que le Seigneur est avec lui et qu'il est là avec lui parce que cet individu est son serviteur. Maintenant, être un serviteur du Seigneur, ce n'est pas être un Billy Graham. On est serviteur dans son cœur, dans son attitude, dans sa manière, dans sa réflexion. Si je suis serviteur de Jésus, eh bien, il est mon maître. Et parce qu'il est le maître, et moi le disciple, je fais des tas de fautes. C'est clair? Je suis un disciple. Je ne peux pas être comme le maître. Je peux essayer d'être comme le maître. Je peux le suivre, l'imiter, m'inspirer de lui. Mais ce ne sera jamais parfait. Ça, je vais vous encourager. Ce ne sera jamais parfait. Et même si on se donne énormément de peine, on aura probablement certains reflets du maître. Mais ce ne sera que des reflets. Comme la lune reflète le soleil, eh bien, la même chose de nous, nous reflétons la gloire du Seigneur. Mais nous pouvons la refléter d'une manière claire ou d'une manière trouble, n'est-ce pas? Mais nous reflétons non pas notre propre gloire, mais la gloire du Seigneur. Et c'est très important, c'est pour ça qu'il nous a donné la lune et les étoiles, pour que nous soyons bien conscients que nous voyons les étoiles parce qu'il y a un soleil. Et non pas parce que les étoiles ont leur propre lumière. Ceci dit, nous parlons du retour du Seigneur. Le retour du Seigneur est important quand le Seigneur est important. Parce que si le Seigneur n'est pas important, son retour ne nous touche pas du tout. En fait, on n'y pense jamais, voyez. Mais s'il est important, on l'attend tous les jours. J'étais une fois dans la chambre à manger d'un chrétien, et il y avait un panneau de fait très joliment fait, et sur ce panneau, il y avait deux mots: peut-être aujourd'hui. Et c'était frappant de voir ce panneau, parce que ça amenait des questions. Peut-être aujourd'hui quoi? Peut-être aujourd'hui, il va revenir. L'attente de Christ nous garde de beaucoup de choses. Parce que quand on attend, on cherche, on se prépare à sa venue. Pour tous ceux qui ont été mariés, vous savez ce que c'est quand on a notre blonde, comme vous l'appelez ici, et que on va la voir, et on a fait un rendez-vous avant ce mariage, et on va voir notre fiancée ou notre amie. Qu'est-ce qu'on fait avant ce moment où on va la voir? Eh bien, la première chose, c'est qu'on va, nous les gars, on va se laver, hein. Et puis, deuxième chose, vous prenez une douche. Ensuite, on va mettre des habits propres, ça c'est clair. Ensuite, on va se préparer, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Qu'est-ce que je vais faire avec elle? Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais Comment est-ce que je vais réjouir ton cœur? Comment est-ce que je vais pouvoir faire de cette soirée ou de cet après-midi un moment spécial pour elle? N'est-ce pas? Ça, c'est l'objet de nos pensées continuellement. Et j'espère que depuis que vous êtes mariés, messieurs, c'est la même chose. Ça n'a pas changé. Si ça a changé, eh ben, il faut changer de nouveau. Mais c'est important. Et c'est important pour l'épouse, n'est-ce pas? Eh bien, Christ, il fait son devoir jour après jour. Hein? C'est, lui, il n'arrête pas. Il nous envoie ses signes d'amour continuellement, n'est-ce pas? Au point qu'on s'en habitue, c'est ce qui est terrible. Et nous, si nous aimons notre époux, nous aimons celui qui va revenir, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire la même chose. Nous allons nous préparer pour lui. Comme cette épouse dans Matthieu 25, où ces vierges qui allaient accompagner ses épouses, et ses filles s'étaient préparées pour l'avenue de l'époux. Et on a vu l'autre jour qu'elles avaient attendu peut-être plusieurs semaines jusqu'au moment où tout d'un coup il y a eu ce cri. Et alors l'émotion était absolument à son comble. Et puis voilà. Et il a fallu aller. Mais il y avait des personnes parmi ces vierges, on a vu, qui étaient prêtes et d'autres qui étaient presque prêtes. Et l'idée, c'est que nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Il y avait une église dans la tournée de l'apôtre Paul. Vous savez que c'était un prédicateur qui voyageait beaucoup. Il y avait une église qui était à Thessalonique. Et cette église est assez extraordinaire et nous allons maintenant voir dans cet épître de Thessaloniciens 1, première des Thessaloniciens, deux ou trois petites choses. L'apôtre Paul avait prêché le retour du Seigneur. En fait, il l'avait tellement bien prêché que ses amis, ils croyaient que le Seigneur allait venir immédiatement. Et alors, ils étaient zélés dans l'évangile à un point que tout le monde chrétien de l'époque, imaginez-vous, avait entendu parler d'eux. Donc c'était des gens qui avaient compris le retour du Seigneur. Ils avaient une responsabilité à faire et ils la faisaient. Ils étaient prêts. Vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient prêts à un point qu'ils négligeaient même de travailler parce qu'ils voulaient pouvoir prêcher l'évangile. Il fallait que le plus possible de personnes deviennent chrétiennes. Alors ils ne faisaient que d'évangéliser partout. Et alors, il y avait des problèmes financiers, tout simplement. Et puis, il y en avait même, il y avait peut-être des discussions là. Il semblerait qu'il y avait eu des affaires qui n'étaient pas tout à fait bien en ordre. Et alors, l'apôtre Paul, au chapitre 4, il remet les choses plus ou moins les pendules à l'heure. Et il leur dit, au verset 9, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. » Car vous êtes vous-même instruit par Dieu en vue de l'amour réciproque. Ça m'a arrêté ce verset. Ça m'a arrêté. Car vous êtes vous-même instruit par Dieu en vue de l'amour réciproque. Vous aviez là dans cette église de Thessalonique des Grecs. C'était des idolâtres, des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu. Et l'apôtre Paul, selon le texte de Actes, au chapitre 17, il n'est resté que 3 semaines à Thessalonique. Ce qui n'est pas bien long. Hein. En 3 semaines, il avait probablement fait 21 sermons. Hein. Ce n'est pas beaucoup. Bien qu'ils étaient longs, on sait que très bien que les gens tombaient par les fenêtres, ils s'endormaient. Mais 3 semaines à Thessalonique, et après, il y a eu tellement de... de montée populaire contre lui qu'il a dû fuir. Il est allé à Bérée. Mais 3 semaines à Thessalonique, et voilà que cette assemblée explosait littéralement. Le Saint-Esprit est venu avec une force et une persuasion qui étaient extraordinaires. Et il y avait un amour fraternel au milieu de ces difficultés qu'il vivait. C'est aussi, ensuite il dit ceci, c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore. J'aimerais remplacer un mot ici, dans ce verset 10, qui s'adresse à nous. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans le Québec tout entier. Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore. Tout d'un coup, ça prend une couleur, hein, quand on change ce mot. Et puis on se dit, et presque, je l'entends presque de tout le monde, « Oh, mais on est tellement divisé au Québec. Oh, mais on a tellement de difficultés dans les églises. Oh, mais il y a tellement de divisions, etc. Il y a tellement de choses qui se passent. » Pourquoi? Parce qu'on n'attend plus le Seigneur. Si on attendait le Seigneur, si on voyait l'Église comme son épouse à lui, au lieu de faire certaines choses, on ne les ferait pas. Au contraire, on irait dans la direction du Seigneur, à la direction du Seigneur sur laquelle c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. C'est la prédication de sa parole, c'est aimer tous les hommes, les servir au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour l'Évangile. Et les amener à la connaissance de Christ. Et ça, c'est très, très important. Frères et sœurs, n'allons jamais oublier ou négliger cette chose. Maintenant, on a ce petit chant qui dit « Brillons, brillons bien, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. » On est d'accord. Chacun a sa place, chacun a son appel, chacun a son ministère. Mais on peut toujours demander au Seigneur un coin un petit peu plus grand. Hein? C'est possible. Et puis, on voit aussi dans ce passage une assemblée qui était connue pour son amour, qui était connue pour son hospitalité, pour cette lueur du Seigneur qui était en elle et qui était bienfaisant. Alors, on continue au verset 11, reprenons au verset 10. Et nous vous exhortons, frères, à progresser encore, à mettre votre honneur à vivre en paix, et vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, cela pour que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, comme vous n'ayez besoin de personne. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre dans une position où nous devions recourir à des personnes, dépendre de personnes qui, elles, ne sont pas de Christ. Nous voulons nous mettre dans une position de pouvoir servir notre prochain. Alors bon, ça c'est la position quand il se concerne cette vie. Mais alors après, il y avait un autre problème à Thessalonique, et on est conscient de cela, c'est que ses frères attendaient le Seigneur d'un jour à l'autre. Et voilà qu'il y en a qui ont décédé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'apôtre n'avait pas eu le temps de leur dire. Alors il faut qu'il leur écrive. Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire qui sont morts, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Maintenant, les mots sont importants là. Par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu, ensuite nous les vivants, qui serons restés. Nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui sont ivres, sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Il y a fort peu de textes dans l'Évangile qui nous parlent de ce qu'on pourrait dire de la première venue du Seigneur, du retour du Seigneur pour l'Église, alors qu'il y a abondante référence au retour du Seigneur pour le règne, n'est-ce pas? Mais il y a suffisamment de choses dans la parole pour nous indiquer que l'Église est un groupe de personnes et disons une entité spirituelle qui, elle, va être qui est considérée par le Seigneur en dehors, si vous voulez, des peuples ou des nations de ce monde. C'est pour ça que notre bourgeoisie, pour ainsi dire, elle n'est pas sur la terre, elle est dans les cieux. Et on avait vu ça hier, que nous ne sommes pas de la terre. Et notre problème, c'est de vivre comme des personnes qui ne sont pas de la terre. Parce que nous vivons dans une société, nous sommes influencés par une société qui, elle, est de la terre et pour la terre. Nous, on est au cieux. De revêtir ce caractère de pèlerin est une chose difficile. Nous n'avons pas des tendances à pèleriner. Nous avons des tendances à habiter. Et puis, il y a aussi tous les enseignements de l'Ancien Testament qui parlent et qui encouragent Israël à certaines attitudes pour leur bénéfice personnel et aussi des générations futures sur la terre. Ça veut dire que ces vérités, il nous faut les ignorer. Ce sont des questions, n'est-ce pas? Parce que l'Église, au fond, n'est pas pour la terre, elle est pour les cieux. Pour vous dire, l'Israélite, même un David, même un Jérémie, même un Ésaïe, n'était pas une personne qui vivait comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons dans les lieux célestes en Christ. Eux n'ont pas ce statut-là. Ils ont un autre statut. Mais nous, nous vivons dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire que nous vivons sur deux niveaux. Nous vivons dans ces lieux célestes, et nous vivons sur la terre, en même temps. Lorsque notre corps cesse de vivre, on continue de vivre dans les célestes. La chose continue là-haut, comme elle est maintenant. La chose, c'est que nous ne sommes pas conscients d'être dans les lieux célestes, parce que la voix du corps est tellement forte qu'elle nous garde ici sur la terre, dans notre attention, dans notre âme. Mais si le corps n'était pas là, nous vivrions dans les lieux célestes en Christ sans difficulté. Il y avait une fois un frère très âgé qui attendait la fin de sa vie. Et puis, on lui avait fait une visite. Et puis, on lui dit, « Alors, frère, comment voyez-vous le ciel, là où vous allez? » Et puis, il nous regarde et puis il nous dit, « Oh, ce ne sera pas bien différent. » C'était un homme qui était tellement dans le Seigneur que c'était un pèlerin qui était au bout, il avait fini son désert et il était tellement dans le Seigneur qu'il ne pouvait pas voir beaucoup de différence dans son âme et dans son cœur entre le moment présent et le ciel. C'est une belle chose quand on y songe. Que le Seigneur lui ait donné de voir cette réalité. Mais nous vivons donc sur deux plans. Et alors, l'apôtre Paul tranquillise ses braves Thessaloniciens en leur disant, Sachez que lorsque quelqu'un d'entre vous, chrétien, est mort, eh bien, il n'est que vers le Seigneur. Il est là où il a toujours été, depuis le moment où il a reçu la vie nouvelle. Il ne change pas de lieu. Il en est seulement plus conscient. Mais ça ne leur suffisait pas. Ils voulaient savoir, bon, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas au ciel? Qu'est-ce qui va se passer? Comment les choses vont finir? Et alors l'apôtre Paul leur explique qu'au fond, il y a deux retours du Seigneur. Il y en a un qui vient pour son Église et il y en a un qui est pour le règne. Or, la parole est bien plus claire et bien plus abondante dans la venue du règne du Seigneur sur la terre. Et si on veut vraiment être précis à ce sujet-là, vous pouvez lire des écrits théologiques depuis des centaines et des centaines d'années. L'Église n'a jamais vu d'autre chose que le règne sur la terre. C'est seulement dans les quelques 200 dernières années, en relisant ces textes avec grand soin, qu'on s'est dit, non, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Parce que il y a cette dispensation, si on peut dire, c'est un terme qui n'est pas très aimé ces jours, mais enfin, il y a cette dispensation des derniers temps dans lesquels nous vivons depuis 2000 ans. Eh bien, ces derniers temps ont un objet, et c'est l'Église qui est l'épouse de Christ, c'est la chose, c'est très clair, c'est l'Israël de Dieu, c'est un peuple qui est entre parenthèses dans l'histoire, et qui, elle, va être co-régnante avec Christ. Or, pour être co-régnante avec Christ, elle doit être comme Christ, parce qu'on ne peut pas co-régner sur deux longueurs d'onde. Et alors, il faut que cette Église soit comme son époux. Même chose. Qu'elle pense la même chose. Donc, on a besoin de cette dernière, si vous voulez, rédemption, entre guillemets, la rédemption du corps, cette fois-là, pour que nous soyons comme Christ est. Et alors, c'est ce que l'apôtre Paul essaye d'expliquer. Alors, maintenant, allons dans le texte un petit peu plus précisément. Nous recommençons au verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Ce que l'apôtre Paul dit, il fait au fond un appont à Romains 6, où dans ce chapitre, il nous montre comme quoi nous sommes morts avec Christ, nous avons été ensevelis avec Christ et nous avons été ressuscités avec Christ. Mais il nous montre maintenant que nous sommes en Christ, complètement. Dès maintenant, nous sommes en Christ. Et que lorsque Christ reviendra, il ne fera que de, si vous voulez, s'agglutiner toutes les âmes qui l'attendent. C'est-à-dire les sortir de cette terre, de les sortir de cette terre qui appartient à Satan. Pour qu'après, il puisse racheter la terre. Parce qu'il n'a pas encore racheté la terre. Il n'a racheté qu'un peuple, qui est l'Église. Et alors, il va donc nous ramener aussi par Jésus-Christ et avec lui, et ça c'est à souligner, avec lui, ceux qui se sont endormis. Il va revenir pour nous. Et il va régner avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Il va venir pour nous, pour régner avec nous. Et ça, ce sont les deux enseignements. Et alors, il ramènera aussi par Jésus-Christ avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Maintenant, il explique ça. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. C'est-à-dire que il y a là peut-être non pas un clin d'œil, mais deux clins d'œil. Un qui est pour ceux qui sont partis, et puis un qui est pour nous. Et alors, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. Ça, ce sont des images spirituelles, n'est-ce pas? Il n'y aura pas, pour ainsi dire, si vous voulez, une fanfare qui va venir Ce sera quelque chose de très tranquille, mais nous le saurons dans nos esprits. C'est nos esprits qui seront sensibilisés par cet appel extraordinaire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Là, l'enseignement est clair, comment ça va se passer, n'est-ce pas? Il ne va pas revenir sur terre, mais il va revenir pour les siens. Et nous serons happés dans l'air, nous disparaîtrons. C'est ce que la parole enseigne, nous disparaîtrons. Mais plus tard, nous allons revenir avec lui. Maintenant, quand nous sommes pris par le Seigneur, saisis par le Seigneur, eh bien, la Bible n'est pas claire au sujet de nos corps. Est-ce qu'ils resteront ici comme des cadavres ou pas? On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'ils seront simplement vaporisés? On ne sait pas. Mais une chose est certaine, c'est que nous serons avec le Seigneur et il nous donnera à ce moment-là le corps glorieux que nous attendons. Et ce sera un corps qui sera comme le sien. Pourquoi? Parce que dans la première épître de Jean, au chapitre 3, nous lisons au verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Il y a là un coup d'œil qui a probablement référence au serpent d'airain. Si vous vous rappelez, au serpent d'airain, eh bien celui qui était mordu par un serpent n'avait qu'à regarder au serpent et il était guéri. Au serpent d'airain, il était guéri. Eh bien là, c'est la même chose. Lorsque nous serons ravis dans les airs, nous le verrons et nous serons changés en son image. C'est le procédé par lequel Jésus va nous donner son corps glorieux. On ne comprend pas bien ces mystères-là, mais c'est des choses que le Seigneur n'a pas besoin de nous expliquer. Mais il nous dit, voilà ce qui va arriver. Il nous y prépare. Alors, bien sûr, c'est une énorme consolation pour nous, et surtout une énorme sécurité pour nous. Parce que nous pouvons maintenant l'attendre avec une anticipation joyeuse. C'est-à-dire que le retour du Seigneur est une chose qui peut nous réjouir tous les moments. Je reviens à l'exemple. Si vous aviez un rendez-vous avec votre ami, votre blonde, votre fiancée, votre jeune femme à telle et telle heure, et vous vous prépariez, eh bien, vous attendez, vous regardez votre montre, voilà, c'est le moment de partir, et puis, bon, il faut une demi-heure pour aller là-bas, eh bien, on va se donner encore un peu plus de temps pour être sûr d'être à temps, n'est-ce pas? On se prépare, parce que il y a là une récompense immense d'être ensemble, une joie, et on meuble sa vie de joie spéciale, n'est-ce pas? Eh bien, que le Seigneur soit cette joie spéciale pour vous et que vous vous prépariez jour après jour pour cette noce qui est la vôtre, qui est la mienne. Imaginez-vous, on va tous se marier là-bas avec le Seigneur. On a vu qu'on n'est que fiancés maintenant. On n'est pas mariés encore. On n'est que fiancés. Les noces de l'épouse, le chapitre 19 de l'Apocalypse, elles n'ont pas encore eu lieu. C'est à venir. Alors, sachons-nous préparer pour ces noces de l'époux. Et sachez, frères et sœurs, que la plupart des jeunes qui vont se marier et qui anticipent beaucoup, beaucoup ce jour, ils y pensent constamment. Ils préparent les choses continuellement, pendant des mois, même des années. Mais ils y réfléchissent. Pourquoi? Parce que c'est une chose unique dans leur vie. Eh bien, pour nous, chrétiens, ces noces de l'agneau, c'est une chose unique. Il n'y en aura pas deux pour l'éternité. Sachons préparer nos cœurs à cela. C'est tellement important. Maintenant, si on continue, on voit dans le chapitre 5, Paul parle maintenant à ces chrétiens et il les instruit sur les caractéristiques de la venue du Seigneur pour le règne, c'est-à-dire pour autre chose. Et le règne est abondamment substantié dans les prophéties d'Ézéchiel, de Daniel, même d'Ésaïe et de Jérémie. Et puis aussi dans Matthieu 24, est dans Luc 16, je crois. Et, ou 20. Et alors, le Seigneur montre là qu'il y aura un moment où il va régner sur Israël. Et vous croyez que le Seigneur n'anticipe pas avec bonheur ce moment? Si il met en place tout ce qu'il faudra pour racheter la terre, c'est-à-dire les jugements horribles dont on lit quelques aperçus dans l'Apocalypse, pour vous montrer l'emprise de Satan sur la terre et la lutte qu'il va lui donner, eh bien, le Seigneur va soutenir cette lutte et il va gagner la bataille et il va vaincre cet ennemi, il va le mettre en enfer et il va juger le monde et finalement, il aura la terre prête pour un règne. Et là, il va régner sur nous, enfin sur les gens qui sont sur la terre. Et ça ne va pas être un règne de Saint-Nicolas, hein. Ça va être un règne avec un sceptre de fer. Or, le sceptre de fer est un sceptre qui parle de la loi. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus le Nouveau Testament à cette époque. Ce sera un règne de loi. Et la loi, ce sera la loi de Moïse, les 10 commandements. C'est-à-dire que cette parenthèse de l'Église sera terminée. Il n'y aura plus le Saint-Esprit et la grâce que nous connaissons aujourd'hui. Et là, ce sera un autre système qui va être en place. Mais lui sera personnellement sur la terre. Et nous régnerons avec lui. Et c'est là où l'Église va être déléguée dans toute la terre. Et nous serons délégués par notre époux dans toute la terre pour régner avec lui. Maintenant, comment est-ce qu'on va communiquer? Je crois qu'il n'y a aucun problème. Parce que nous l'aurons vu. Nous serons comme il est. Nous aurons un cœur qui pensera comme il pense. Il y aura une télépathie qui sera total avec nous. Et l'information n'aura aucun problème, parce que nous serons partout où il y a des hommes. Toute l'Église sera déléguée sur la terre. Et qu'est-ce que nous ferons, nous, comme Église, sur la terre? Nous serons là pour enseigner l'Évangile à tous ces enfants qui vont naître dans le royaume. Il y aura des millions de personnes qui vont naître dans le royaume. Ça commencera tout petit, bien sûr, il y aura les résidus de tous ces peuples qui sont morts, qui se sont rebellés contre le Seigneur, mais il y aura toujours ce résidu de gens fidèles. Et de ce résidu, eh bien, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants qui vont remplir la terre. Et c'est pour ça que l'Église doit arriver à ce nombre-là pour le règne. Et c'est très important de comprendre ces choses, que pour régner avec Christ, nous devons penser comme le chef. Comme lui. Ainsi, nous pouvons régner avec lui, nous serons qualifiés pour le faire. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait sur cette terre? Il nous fait passer par toutes sortes de leçons, de souffrances, de choses. Pourquoi? Pour que nous puissions comprendre comment lui pense, comment lui réfléchit, et que nous apprenions dans le règne, nous puissions travailler avec lui. C'est pour ça qu'il nous donne des paraboles. Et j'en prends une. Il y avait un maître qui avait donné des talents à ses serviteurs, et ses serviteurs ont multiplié ses talents. Et puis, dans cet évangile-là, au lieu de l'établir sur plus, disons, de dire, eh bien, écoute, entre dans la joie de ton maître, il leur donne une responsabilité plus grande. Il les établit sur des villes, n'est-ce pas? Alors, celui qui avait multiplié ses talents, il lui dit, bon, fidèle serviteur, tu t'établis maintenant sur tant de villes. Tu vas être responsable. Et puis à l'autre, sur des villes aussi, en moins grand nombre, il était peut-être moins capable, mais il pouvait aussi quand même régner sur ces villes. Et là, le Seigneur nous montre comment ce royaume de Dieu va fonctionner sur la terre. Alors bien sûr, on peut se poser la question, on peut se dire, qui sont ces serviteurs? Qui sont-ils qui vont régner comme ça sur la terre? Régner, c'est pas, disons, le travail le plus plaisant, hein. C'est un gros travail de régner. Tout d'abord, c'est gérer les choses qui ne nous appartiennent pas. C'est une responsabilité écrasante. Eh bien, Dieu, le Seigneur, va nous donner tout ce qu'il nous faudra pour pouvoir être fidèles dans les fonctions qu'il nous confiera dans ce royaume. Mais nous allons tous être responsables parce que nous sommes tous dépositaires de ce message. du Seigneur, on a vu, il viendra comme un voleur, au verset 2. Et on retrouve là ce qu'on voit dans Matthieu 24 et d'autres passages, même dans le livre de Daniel, j'ai revoyé un peu ce livre. Eh bien, en effet, il y aura une immense guerre dont il parle, qui va être la grande guerre finale, là où les royaumes vont s'annihiler les uns les autres, et là où le Seigneur finalement mettra fin à cette rébellion de l'homme. Et quand les hommes diront paix et sûreté ou sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Bien sûr qu'on peut prier pour la paix dans le monde, bien sûr qu'on peut prier pour que les peuples ne s'entretuent pas ou ne se fassent pas de mal. Ça, c'est une prière qui est certainement valable. Mais sachez que le moment où il y aura paix et sécurité, c'est là qu'il faut bien se dire que c'est près de la destruction. Pourquoi? Parce que cette paix, cette sécurité, elle est fondée sur le limon de l'homme et non pas sur le roc de la parole de Dieu. Le Seigneur, lui, il se rit de la sécurité de l'homme. Il se rit de cette imitation que l'homme veut faire. On veut créer dans cette terre par ses propres moyens. Dieu est toujours maître de son peuple et de toutes les nations. Et il fera, selon sa souveraineté, ce qu'il voudra. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les événements à partir du 11 septembre. Mais c'est incroyable quand on y songe, les mouvements que cette chose a fait. Imaginez ceci, il y a eu quoi, 3200 personnes qui ont décédé. Eh bien, en Afrique, 3200 personnes qui décèdent, c'est rien. C'est une chose qui arrive presque toutes les deux semaines. Ce n'est pas une chose dont on s'afflige d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui, financièrement ou, disons, politiquement, n'ont pas la signification ou, disons, l'influence que des gens qui habitent à New York peuvent avoir. Mais ce qui m'a étonné, c'est de voir aussi le côté économique de cette chose, le côté politique de cette chose, et de voir les positions que les gouvernements, même occidentaux, ont pris après deux ans. Comme disait Voltaire, le sang qui coule sèche vite. Eh bien, c'est une réalité. Ça n'est pas arrivé à ma famille, ça n'est pas arrivé à mon pays, ça n'est pas arrivé près de chez moi, donc c'est pour les autres, c'est pas important. Et c'est tellement comme ça que nous réagissons. Nous réagissons en fonction de nous-mêmes et non pas en fonction du Seigneur. Et je crois que le Seigneur nous a envoyé un avertissement. Non pas un avertissement pour avoir une force armée tout d'homme, mais un avertissement qui nous disait « Faites attention. Vous croyez que vous êtes solide économiquement, vous croyez que vous prospérez économiquement, mais votre argent est souillé. » Et on l'a vu dans les mois qui suivaient, les choses qui ont été découvertes sur le plan fiscal, sur le plan des bilans, de combien de compagnies, c'était de l'argent qui était souillé. Des richesses qui étaient rouillées. Et il y a des quantités de personnes qui ont tout perdu, et même leur retraite, qui ont tout perdu. Eh bien, frères et sœurs, je crois que le Seigneur nous a parlé, et continue de nous parler. Notre sécurité n'est pas dans notre compte en banque. Notre sécurité, il est dans le Seigneur. C'est lui qui tient les choses dans sa main. Et il est dit qu'il ne laissera jamais son serviteur manquer de pain. C'est pour ça que la question du retour du Seigneur peut être une chose très technique. D'après les prophéties et tout ça, on pourrait passer énormément de temps à chercher tous ces versets. Mais est-ce que ça nous laisse quelque chose pour le jour? Et je crois que dans ces Thessaloniciens, en conclusion, l'apôtre Paul, dans sa sagesse, il nous donne des exhortations extrêmement utiles. Et la première chose, il dit, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Et cela, je le lis à nous aujourd'hui, ce soir. Et je vous le dis, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons pas donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Déjà, avant-hier, nous avons vu ce message de veiller. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui sont nés la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Qu'est-ce que ça veut dire, sobre? Ça veut dire sans excès. Sans excès, d'une manière ou d'une autre. Et votre vie a le profil qu'elle a. Et l'apôtre Paul ne va pas dans les détails. Il ne dit pas, oh ça c'est trop, ça c'est pas assez, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Il ne vous donne pas un inventaire de choses à faire. Mais il vous dit, soyez sobre. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, faites-le avec mesure. Non pas d'une manière excessive. Mais alors, il donne des exhortations importantes. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Le salut n'est pas seulement quelque chose qu'on reçoit le jour où on s'est converti, comme on a vu, mais c'est quelque chose auquel on est destiné à posséder. Posséder le salut, c'est-à-dire en prendre conscience du salut et de toutes ses implications dans tous les domaines de notre vie maintenant et pour toujours. Donc c'est un énorme sujet. Notre Seigneur Jésus, qui est mort pour nous afin que quoi que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est vraiment intéressant de voir ce que l'apôtre dit ici. Soit que nous dormions, c'est-à-dire du sommeil de la mort, ou soit que nous vivions ensemble, soit que nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement, édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Il y a une bataille ici dans la vie chrétienne. Sitôt qu'on est devenu chrétien, on entre dans une guerre. Dans un sens, on a la paix avec Dieu, on est d'accord. Par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dans un autre sens, on détruit notre paix, n'est-ce pas? La paix que nous avions avec le monde, si on peut dire qu'il y en a de la paix. Mais on détruit cette paix, on détruit les chances à cette paix. Il n'y en aura jamais, jamais. Nous détruisons les chances de la paix entre nous et le monde. Pourquoi? Parce que celui qui veut se faire ami du monde se constitue un ennemi de Dieu. Et ça, il n'y a pas le choix. L'apôtre Jean nous dit, c'est un ou l'autre. Alors bon, puisqu'on on est en paix avec le Seigneur, eh bien, sachons nous réconcilier à l'idée que nous sommes en guerre avec Satan, avec ses puissances. Et que ça, c'est notre vie, ici-bas. Pour aussi longtemps qu'on est là, il y aura bataille, il y aura guerre. Comme on dit, il y a deux choses qui sont sûres, c'est la mort et les impôts. Alors, il y a une troisième pour le chrétien, c'est qu'il y aura une bagarre avec Satan, toujours. Et elle va nous venir de tous les azimuts, soit par la tentation, soit par l'opposition, soit par l'incompréhension, soit par nos frères et nos sœurs, même. Ça nous vient de tous les azimuts. Pourquoi? Parce que Satan est partout. Alors, l'apôtre Paul dit, revêtez les armes de l'esprit. Maintenant, ces armes de l'esprit, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour taper sur la tête de notre frère avec notre Bible et puis lui dire convertis-toi ou écoute ce que Dieu dit? Non. Les armes de l'esprit sont pour la prière. C'est dans la prière que nous revêtons les armes de l'esprit. Et dans la prière, nous nous rendons compte que nous sommes là en bataille et nous prions contre les puissances qui lient et qui détruisent et qui obscurcissent des personnes, et moi-même, n'est-ce pas? Priez contre ces puissances. Bon, je ne peux pas vous donner exactement le texte d'une prière, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand je vois des personnes liées, eh bien, vraiment liées par l'amertume ou par un péché ou par une situation, je ne veux pas m'occuper de quel démon il y a là ou de quel lien il s'agit. Mais mon spécialiste dans ce domaine-là, c'est le Seigneur Jésus. Lui, il en a chassé plus que tout le monde, et puis quand il l'a fait, il l'a bien fait. Alors, je ne crois pas qu'il a dit, il nous a dit qu'il n'allait plus le faire. Mais je vous dis, mon expérience, c'est quand il y a une situation difficile, Je demande au Seigneur d'envoyer ses anges de lumière. Parce qu'il a des puissances de lumière extraordinaires qui sont là. Je ne les connais pas toutes, de loin. Mais je sais qu'il y a des anges et des archanges qui se battent contre les puissances des ténèbres. Donc il y a des ordres qui sont donnés d'en haut pour se battre contre certaines choses, certains liens, même politiques, qui lient des peuples, qui lient des pays, qui lient des nations, qui lient des cultures et qui lient des individus. Et alors, je prie pour que le Seigneur envoie, pour la gloire de son nom, et qu'il envoie ces puissances-là pour la libération de telle personne ou de telle situation. Et depuis que j'ai commencé ça, ça fait maintenant 5-6 ans, c'est un travail à long terme, hein. C'est pas une chose rapide, mais c'est un fruit sûr. C'est-à-dire qu'en dehors de 2 ou 3 ans, souvent, je vois les choses basculer du côté du Seigneur. C'est pour ça que je voudrais vous encourager. Vous êtes tous dans des batailles, moi aussi. On a tous des choses qui nous affligent, des liens qui sont plantés dans nos familles. On aime avoir peut-être un conjoint, peut-être des parents, peut-être des enfants, peut-être un frère, une soeur, que sais-je, qui est encore dans l'obscurité. Suppliez le Seigneur d'envoyer ces anges de lumière dans leur vie pour qu'ils agissent et qu'ils chassent ce qui les empêche de voir la vérité. Et rendez-vous disponible au Seigneur pour être son messager, sinon qu'il envoie un autre, n'est-ce pas, à votre place, celui qu'il pense qui est bon. Mais l'important, c'est que cette personne vienne au Seigneur. Mais vous savez, il y a peu de personnes qui prient et qui entrent dans cette lutte-là. Et je ne vous dis pas d'aller chasser des démons, non, mais on peut tous prier et on peut tous demander au Seigneur d'envoyer ses puissances de lumière, ses anges de lumière, pour débloquer des situations difficiles. Et ça, il le fait. Il écoute, parce que c'est à sa gloire. Souvenez-vous, notre Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu soit loué que ce soit comme ça. Il ne partage sa gloire avec personne. Mais il attend de nous que nous revêtions les armes de la lumière pour prier et pour exercer notre foi pour le bien et pour le salut de tous ceux qu'il a placés autour de nous. Alors je vais vous encourager à faire cela. Ne vous découragez pas dans les défis qui sont devant vous. Ne faites pas des plans en vous disant « Oh, ben, peut-être qu'à ce moment-là, ben, il y aura des choses qui vont marcher, peut-être je veux l'envoyer ici ou je peux le faire venir là, etc. » Non, ça ne va pas se passer comme ça. À moins que ces prières soient faites, à moins qu'il y ait une lutte pour eux, eh bien, il n'y a au fond rien qui se passe. Si vous voulez, nous sommes les enjeux de 2 équipes de hockey. Il y a l'équipe de lumière et l'équipe des ténèbres. Et l'équipe qui gagne, c'est celle pour laquelle nous crions et que nous encourageons. Et voyez ces prières-là comme étant une acclamation des puissances de lumière contre les puissances des ténèbres. Et allons-y pour la victoire. Vous voyez ce que je veux dire? Comme Moïse sur sa montagne levait les bras au ciel. Et les Israélites avaient le succès sur les Amalekites. Puis après un moment, il n'avait plus de sang dans ses épaules. Alors il avait laissé tomber ses bras. Et à ce moment, les Amalekites avaient la victoire pour un petit moment. Puis après, il relevait ses bras. Finalement, il y avait ses 2 serviteurs, Josué et Aaron, qui ont compris. Alors ils se sont dit, allez, Moïse, lève tes bras, on t'aide. Puis voilà, ils ont tenu ses bras jusqu'à ce que Moïse ne peut plus sentir ses doigts. Mais n'empêche, ils ont eu la victoire. Et c'est au fond assez simple. Dieu ne nous a pas donné des solutions compliquées, mais il nous donne la victoire par Jésus-Christ, maintenant et pour toujours. Prions. Ô Dieu et Père, nous voulons te remercier parce que ta parole est si claire. Et ce soir, nous voulons mettre en effet cette cuirasse de l'amour et de la justice, de l'amour agapé et de la justice. Non pas notre propre justice, mais Jésus-Christ lui-même. Et nous voulons mettre ce casque du salut. Et nous voulons te présenter maintenant, dans cette minute de silence qui vient, tous ceux et celles pour lesquels nous te demandons d'envoyer tes puissances de lumière pour les libérer, pour les délier, pour leur faire voir, pour, Seigneur, les amener à un terrain sur lequel ils puissent prendre une décision en ce qui te concerne. Seigneur, nous te remercions de ce que cette victoire, elle nous a été acquise à la croix, et que par la foi, dans cette victoire, tu nous accordes d'anticiper et de voir déjà cette victoire dans les personnes que nous avons, pour lesquelles nous t'avons prié. Et maintenant, Dieu et Père, nous te remercions de ce que nous sommes au bénéfice d'une promesse, que là où est le serviteur du Seigneur, eh bien, là aussi sera son maître. Et nous te remercions de ce que cette vérité, elle n'est pas non plus seulement pour la terre, mais elle est pour toujours. Et nous anticipons dans nos cœurs, avec joie, le retour de notre maître. Et nous te disons, Seigneur Jésus, pour toute l'Église aujourd'hui sur la terre, viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Nous anticipons ton retour. Nous nous réjouissons de te voir. Et cela, dans ton bon nom.